Frères et sœurs, que le Seigneur bénisse ce culte. Amen. Nous avons écouté le psaume numéro 1 sur le chemin, les chemins, des moqueurs, des pécheurs, des gens sans foi ni loi, des insensés. Puis il y a un petit chemin avec un homme qui médite jour et nuit la parole du Seigneur. Et c'est lui qui prend racine comme un arbre. Et les autres, ce sont des petits morceaux de paille, pouf, qui s'en vont. Parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. On a été fait pour être en relation avec lui. Si on lâche la main de Dieu, on n'a plus rien qui nous tient à la vie, rien qui nous attire vers le royaume. Alors j'aimerais vous montrer un peu la suite de ce psaume. C'est dans l'évangile de Luc, parabole de Jésus. Évangile de Luc, chapitre 12 et verset 16. Nous restons toujours bien fixés sur les paroles de l'évangile. Sinon, nous dérivons au large. On ne sait pas où on va. Luc 12, verset 16. Il leur dit cette parabole. Alors tout le monde écoute là. Parce que c'est une histoire de la vie. Une histoire qu'on voit même dans les journaux, à la télé, chez les voisins ou chez soi, partout. Il leur dit cette parabole, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. » Et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. » Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais Dieu, toujours un mais, Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui sera-ce? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Jésus est en chemin avec ses apôtres. Il leur parle de chemin. Attention, mes amis. Les jeunes, les enfants, les adultes, il y a plusieurs chemins. Il y a des chemins de moqueurs, il y a des chemins de méchants, puis il y a des chemins où l'on perd le sens. On est aveugle, on ne sait plus, on ne ressent plus. Alors cet homme, dit donc, il a réussi quand même. Ça ne vient pas de lui. Il y a eu des bonnes saisons, il y a eu des récoltes, les blés ont été magnifiques, un grain en a porté 60, un autre 30. Cet homme a réussi. Non, il est devenu un propriétaire terrien riche. Jésus dit non, il n'a pas réussi. C'est un insensé. Il n'a plus le sens de la vie. Il ne sait pas où il va. Ouf ! Seigneur, tu nous décoiffes là. C'est un insensé. Malgré ses comptes en banque et ses greniers pleins, il a perdu le sens de la vie. Alors j'écoute. J'écoute parce que j'ai besoin de mieux comprendre le sens de la vie. Mais quelqu'un me dira, mes frères, il y a eu du blé, c'est une bénédiction. Les terres ont produit beaucoup de blé cette année-là. C'est une bénédiction. Oui et non. Oui et non. C'est une bénédiction, mais quand cette bénédiction nous empêche de voir le chemin de la vie, Dieu, quand on perd Dieu de vue, c'est plus une bénédiction. C'est Jésus qui dira à la fin si notre vie a été réussie, si notre vie a été bien, bien pour lui, bien pour les autres, ou si c'est nous qui décidons, c'est Dieu qui décide. Eh bien, pour cet homme, je vais vous dire, ce n'est pas une vie réussie parce qu'il a tellement de bien et ça marche tellement bien ses affaires qu'il n'a plus conscience de sa fragilité. Il n'a plus conscience de sa vie, il n'a pas conscience des autres, il amasse, comme si les autres n'existaient pas, il n'a pas conscience de Dieu, il dit même, je suis tranquille pour plusieurs années, 40 ans, 50 ans, 80 ans, le lendemain il était mort. Donc il n'a plus conscience du temps de la vie. Enfin, restons aujourd'hui, c'est un grand homme d'affaires. C'est un propriétaire qui, bah oui, il a réussi. Et voilà. Jésus ne dit pas que réussir, c'est mal. Jésus ne dit pas que l'argent, c'est mal. C'est un bon serviteur, mais ce n'est pas un bon maître, l'argent. Si l'argent nous dirige, il va mal nous diriger. Jésus ne dit pas qu'il est malhonnête, cet homme. Jésus ne dit pas que c'est un voleur, cet homme. Cet homme, il a eu les moyens de vivre et il en a fait toute sa vie. Pour lui, il ne vivait que pour son blé. J'ai des moyens pour vivre. J'ai un ordinateur. Qu'est-ce que j'ai encore? Parce qu'à part l'ordinateur, qu'est-ce qu'on a après tout? J'ai du pain. Ah, j'ai oublié. J'ai du chocolat. Et j'ai du miel. Bon, avec ça, j'ai des moyens pour vivre. Mais le miel, le chocolat, l'ordinateur, la voiture, ce sont pas les, c'est pas le but de ma vie. Je ne vis pas pour le chocolat. Je ne vis pas pour ma voiture ou mon ordinateur. Je pense que je vis pour, je sais que je vis pour quelqu'un et quelque chose de 100 000 fois plus grand. Aujourd'hui, mes amis, au supermarché, dans ce monde où tout est commercial, l'homme est vendable, l'homme peut être un esclave. Aujourd'hui, les choses deviennent des buts de la vie, des raisons de vivre. Ils prennent toute la place. Ils nous déversent dans nos cœurs et nos maisons tellement de choses. Quand j'étais enfant, j'ai vu un dessin animé de Walt Disney. On aimait beaucoup Walt Disney. C'était l'apprenti sorcier. Vous connaissez l'histoire, l'apprenti sorcier. Mickey, il ne veut pas faire la corvée de l'eau. Alors, il va essayer de faire marcher le balai et le seau pour qu'il puisse travailler pour lui. L'apprenti sorcier. C'est une histoire, c'est une musique aussi. Et puis, il ne sait plus comment arrêter l'apprenti sorcier. Et le balai, eh bien, n'arrête pas d'amener de l'eau plein la maison, plein la rue. Il casse le balai, il y a deux balais qui continuent, quatre balais qui continuent. Il ne peut plus arrêter le progrès. Nous non plus, on ne peut plus l'arrêter. Et le progrès déverse chez lui de l'eau et plein la rue et plein sa tête. Mes amis, c'est l'histoire de notre insensé de l'Évangile. Cet homme très riche, il est pauvre dans sa tête, il est pauvre dans son cœur, parce qu'il a fait de ses biens un but, une raison de vivre. Est-ce qu'il a une femme? S'il a une femme, je ne sais pas, ce n'est pas écrit. Il n'a certainement pas le temps de beaucoup lui parler. Est-ce qu'il a des enfants? On ne sait pas. S'il a des enfants, il n'a pas le temps de les sortir un petit peu pour leur montrer la campagne, les animaux, les chemins, les forêts, Saint-Malo. A-t-il des livres? Peut-être, mais il n'a pas le temps de lire. Il n'a plus le temps de rien. Et vous avez vu, dans cette histoire, il dit toujours « je ». Moi, je, mon âme, je dirai à mon âme. Il est tout seul. Il ne vit que pour lui. Ah, comme les apôtres, c'est différent. Quand Jésus les appelle au bord du lac de Tibériade, ils laissèrent tout et le suivirent. Le Seigneur nous appelle à réfléchir avec cet homme parce qu'on marche nous aussi avec Jésus. Alors les jeunes d'Évreux, est-ce que ça va? Ça va? Ah, quand je vous vois, j'ai des souvenirs qui remontent en moi d'Évreux. Déjà de quelques années, je ne vous dis pas quand. Et quand le Seigneur nous appelait, c'était avec le pasteur Moïse Arroux à l'époque, quand il nous appelait, vous savez, on était une petite équipe, rien ne pouvait nous arrêter. Rien ne pouvait nous arrêter. On était solide, on était dynamique, on allait chanter dans les maisons de retraite, chanter dans les hôpitaux, on allait chanter dans les salles publiques de Normandie, de Münster, du Nord, de Belgique. On allait donner partout des évangiles, passer nos samedis, nos dimanches dans les réunions et y aller. On priait à un tel point que nos personnes âgées n'avaient plus le temps de prier. Elles disaient, les jeunes, il y en a que pour eux, ils prient toujours et nous on n'a plus le temps de prier. Enfin, on était dynamique et on s'est dit, rien ne pourra nous arrêter. Rien ne pourra nous arrêter. Attention, n'écoutons pas les moqueurs et les insensés. Et surtout une chose, le diable peut encombrer notre vie. On y va, j'y allais, je pourrais vous citer les noms de tous ces jeunes qui étaient pour moi des compagnons, des collaborateurs. Mais le diable peut encombrer toujours plus notre vie jusqu'à ce qu'on en étouffe et jusqu'à ce qu'on soit paralysé. Vous connaissez l'histoire de l'homme qui achetait des chaises pour mettre dans sa maison? Il avait la maison qui se remplissait de chaises, puis au bout d'un moment, il ne pouvait plus rentrer chez lui. La maison était pleine de chaises, ça ne servait à personne. Et je pense que cet homme représente le danger qui me guette, qui nous guette. Ce danger, c'est de toujours avoir plus jusqu'à ce qu'on soit encombré, étouffé et qu'on n'avance plus avec le Seigneur. Regardez cet homme, il veut des greniers, il veut des machines pour faire des machines qui vont nous remplacer. On ne sera pas des machines, on sera simplement les spectateurs des machines. Il vit pour lui, il ne vit plus pour les autres, il n'attend plus rien. Il est finalement maître de sa vie, c'est un petit roi, c'est un petit Dieu. Ah, comme elle est vraie cette parole de Satan dans le jardin d'Éden, dans le paradis. Vous serez comme des dieux, avait dit Satan. Adam et Ève ont cru cette parole, et le monde croit dans cette parole. Pas de place pour Dieu. Un Dieu qui finit par nous encombrer, un Dieu qui devient même inutile, et on n'a pas de temps pour lui. Voilà les dangers, c'est un appel de Jésus. Faites attention si votre vie s'encombre de plein de divertissements, plein de musique, plein de copains, de copines, plein de choses, vous allez étouffer et vous ne pourrez plus prier, continuer. Vous savez que nous pouvons perdre Jésus quand les parents de Jésus, Joseph et Marie, sont allés à Jérusalem pour les 12 ans de Jésus. Ils ont perdu Jésus et au bout de 3 jours, il est où? On peut perdre Jésus, tout doucement, sans, comme Joseph et Marie, sans nous en rendre compte. Au bout de 3 jours, certains m'ont dit au bout de 30 ans, ils se sont rendus compte qu'ils avaient lâché la main de Jésus. Et cette nuit-là, monsieur, toujours plus, on va l'appeler comme ça? Ça vous dérange pas? Monsieur toujours plus, monsieur grand grenier, cette nuit-là, comme quoi on est maître de rien, il est décédé, il est mort. Et quand on meurt, on rencontre le Seigneur et on rend compte à Dieu du bien et du mal que nous avons fait étant dans notre corps. Mais qui a déposé dans le cœur de cet homme tant d'égoïsme, tant de folie? Oh, dites donc, les jeunes d'Évreux, avez-vous dans votre région toujours des coucous? Non. Dans la campagne, je ne parle pas des vieux coucous. Parce qu'un vieux coucou, c'est une vieille voiture. Connaissez-vous les coucous? Les coucous, ils ont un défaut, un gros défaut. Ils déposent leurs œufs dans le nid d'un autre oiseau. C'est terrible. Ils déposent un œuf dans le nid d'un autre oiseau. Comme ça, ils ne s'occupent pas de leurs petits. Il y a quelqu'un qui va s'en occuper. Voilà. Et puis l'autre oiseau, mettons la fauvette, eh bien, elle voit un œuf. Oh, il y a un œuf de plus. Bon, ne pose pas de questions. Et elle couvre cet œuf, elle en prend soin. Il y a même des coucous qui enlèvent un œuf. Ce que je vous dis là, on l'a vu à la télé. Le coucou enlève un œuf parce que les oiseaux savent compter. Parce que si Madame Fauvette rentre le soir en disant « c'est bizarre, ce matin il y avait 4 œufs et là j'en ai 5 », c'est bizarre quand même. Mais les coucous savent que les autres savent compter et ils enlèvent un œuf, ils le jettent par terre, on ne parle plus, et ils mettent leur œuf. Et Madame Fauvette, le soir quand elle rentre, 1, 2, 3, 4, c'est bon, le compte est bon. Mais parmi ces œufs, il y en a un qui est un faux. Enfin, un œuf de coucou. Et le plus terrible, c'est que ce petit coucou qui va sortir de l'œuf, il va manger les autres. C'est affreux. Il va manger les autres. Et quand il y a un œuf de trop, il le jette par-dessus bord, de telle sorte que le petit coucou, qui est un petit personnage menteur, un petit personnage dévoreur, massacreur des autres, tricheur, ce petit coucou qui va imiter le chant des autres, il va être tout seul dans le nid. Tout est pour lui. Il a tout gagné. Il a une maman qu'il ne connaît pas, qui va prendre soin de lui, et la pauvre maman ne se rend même pas compte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte parfois de ce que le diable met dans votre cœur. Je ne sais pas si vous réalisez toutes les énormités que vous voyez sur Internet, sur votre smartphone. Est-ce que vous réalisez, est-ce que la petite fauvette, est-ce qu'elle réalise que c'est un petit monstre qui est dans son nid, puis elle le nourrit, plein le bec. Mes amis, cette histoire, et là, c'est une histoire vraie, pour nous montrer l'histoire de l'insensé. Le diable avait mis dans son cœur, le riche là, il avait mis dans son cœur du mal, toujours faire plus, sans Dieu. Et ce mal a dévoré son intelligence, son âme, sa vie. Seigneur, donne-nous la force de rester réveillés pour résister au mal. Donne-nous de préparer un chemin pour aller vers toi et toi venir vers nous. Le Seigneur, mes amis d'Évreux et de Rennes, le Seigneur aime vous entendre prier. Quand vous priez, il a son oreille sur votre bouche, il vous écoute. Il aime vous voir lire la Bible. Il veut mettre dans vos pensées des belles pensées. Jésus disait parfois aux apôtres, « Pourquoi vous avez des pensées comme ça dans votre cœur? Pourquoi vous avez des pensées comme ça? Pourquoi vous avez des coucous dans votre cœur qui vont vous dévorer ?» Lisez la Bible chaque jour. C'est votre pain quotidien. C'est un miroir, la Bible. En la lisant, vous verrez l'état de votre âme. vous verrez ce que Dieu vous dit. Et vous verrez les coucous qui se cachent dans votre cœur. Lisez la Bible. Quand vous lisez, Dieu vous regarde, Dieu vous attend, Dieu vous porte au-dessus des dangers, au-dessus des nids de coucous. Quand vous lisez, vous êtes dans la main de Dieu et il vous façonne, et il vous montre le chemin. Je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Il y a des jeunes qui se posent des questions sur leur avenir, sur un mariage qui ne vient pas, sur une profession qui ne vient pas, sur des choix à faire. Lisez la Bible, Dieu, ce ne sera pas écrit d'aller à telle place, mais Dieu vous montrera la voie que vous devez suivre. Nous avons aujourd'hui dans le monde des missiles bien guidés qui arrivent au mètre près. Terrible. Des missiles bien guidés. Et nous avons des hommes mal guidés qui font n'importe quoi, et des jeunes aussi mal guidés. Seule la Bible est un chemin. Savez-vous que Dieu guide les saumons? Vous aimez le saumon? C'est une belle bête, hein, un beau poisson. Et quand le saumon qui est né dans les montagnes, qui est né dans les cours d'eau, tout en haut, quand le saumon arrive dans la mer, dans l'océan, un jour, dans sa tête, il se dit « Je vais revenir à la maison pour donner naissance à un petit saumon et mourir. » Et le saumon, à des centaines de kilomètres dans la mer, il retrouve son chemin, il retrouve la rivière et il remonte les cascades. Et il remonte jusqu'au lieu où il est né et personne ne lui a dit. Dieu nous conduira jusqu'à lui si nous lisons la parole de Dieu. Amen. Cette histoire du riche insensé est un appel pour nous. Nous ne savons pas marcher, nous ne voyons pas les choses sans l'aide de Dieu. Regardez ce riche. Il est devenu comme un petit fétu de paille, le psaume numéro 1 que Sandro nous a lu. Il ressemble à un petit fétu de paille, à la paille, à la balle du blé. Pourtant cet homme, il a reçu l'appel de Jésus comme nous. Mais la voix de Jésus a été étouffée dans son cœur par les soucis, par les richesses, par les épines, par l'oubli de Dieu. Il faut apprendre à écouter, je reviens à ce que je vous disais, apprendre à écouter la parole de Dieu, à faire attention aux détails de notre vie, faire attention aux réactions dans notre vie, aux détails de nos journées, faire attention, apprendre à faire de bons choix, à contrôler, surveiller ses fréquentations, à ne pas résister à l'appel du Seigneur et puis à être ouvert aux surprises du Saint-Esprit. Parce qu'il peut nous surprendre, comme il m'a surpris un jour à Évreux. Je venais pour faire des études d'infirmier, et puis à Évreux, je me suis dit, tiens, je vais aller à l'église, que je connaissais quand même, pas Évreux, mais ailleurs. Petite église, ce qui était une cave, première église d'Évreux, c'était une cave. On descendait pour monter vers Dieu. Et dès les premières paroles du pasteur Harou, le Seigneur là, eh bien, il a pris ma main et il m'a donné avec une grande assurance, l'assurance du salut en Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur fait des surprises. Il m'a rempli de son esprit. Amen. La parole de Dieu aussi, quand nous la serrons dans notre cœur, elle nous ouvre les yeux sur les autres. Je ne sais pas s'il avait une femme, s'il avait des enfants, des amis. Pour qui stocke-t-il tout ce blé-là? À quoi ça va lui servir? Est-ce qu'il a une descendance? Est-ce qu'il a des amis qui en ont besoin? parole de Dieu nous ouvre aux autres. En 1942, vous savez qu'il y a eu dans toute l'Europe des choses graves. Et en juillet 1942, l'Allemagne avait décidé de commencer les rafles de juifs par millions vers les fours crématoires. Et à Paris aussi. Puis là, il y avait, l'histoire est vraie, hein, je l'ai vécue cette semaine. Et là, il y avait une femme juive avec 3 enfants. Eh bien, elle a eu l'idée de protéger les enfants. Parce qu'on n'avait pas pitié pour les bébés, on n'avait pas pitié pour personne. Et elle a mis 2 enfants cachés en Vendée dans une famille, personne ne le savait, des petits-enfants juifs. Et puis une petite fille juive, on l'a mise à Fougères, près de Rennes, dans la famille Breton. Personne ne l'a vue. Pendant 2 ans, la petite avait 2 ans. Et pendant 2 années, jusqu'en 1944, cette petite fille a été protégée, surveillée, nourrie. Elle a été sauvée. Et le papa, dès que la guerre a été finie, il a pris son vélo depuis Paris. Il est allé à Fougères en vélo. Il a été chercher sa petite fille, puis il l'a ramenée en vélo. Et cette petite fille, je l'ai vue mardi dernier. Enfin, elle n'a pas 2 ans. Elle a 78 ans. Mais cette petite fille juive qui a été sauvée, ce n'est pas une petite fille qui a été sauvée, c'est 4 générations. C'est sa génération, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Ils étaient tous là, dans la mairie de Rennes. Et une représentante de l'État d'Israël est venue. Et elle a donné à la famille qui avait sauvé la petite juive, elle a donné cette célèbre médaille, la médaille des justes des nations. Et le nom de cette dame qui a protégé l'enfant juif, le nom de cette dame qui est décédée maintenant, va être gravé à Jérusalem pour tous les temps. Ça restera gravé dans la pierre. Cette femme a sauvé 4 générations. Et bientôt, ce sera 5 et 6. Quand on sauve un homme, dit un proverbe juif, on sauve le monde. Frères et sœurs, marchez bien avec le Seigneur. Les jeunes, hein, hébreux. Restez toujours proches de la parole de Dieu. N'abandonnez jamais l'Église. Ne vous fatiguez pas de courir avec Jésus. Soyez attentifs aux autres. Écoutez bien la parole de vos pasteurs. Formez une belle église qui brille dans les lieux obscurs. Et Dieu vous bénira. Je ne sais pas jusqu'où Dieu peut nous bénir. À l'infini. Amen. Dieu vous bénisse. Voilà, il y a des enfants de pasteurs ici même. Bon, je vais prier le Seigneur. Seigneur, tu es avec nous en ce jour pour nous montrer l'importance d'être libérés, libres de tout fardeau, de tout encombrement, pour te suivre chaque jour dans la jeunesse, dans l'âge adulte, dans la vieillesse, jusqu'à la vallée sombre de la mort, être toujours avec toi. Seigneur, tu ne nous appelles pas un simple moment de fête, tu nous appelles à une vie entière avec toi et une vie qui se prolongera là-haut, mais qui se prolongera aussi sur la terre à travers nos descendants. Merci pour tout ce que l'Église d'Évreux m'a apporté avec l'Église de Nassandre et de Louviers. Merci parce que j'ai fait au milieu de ces églises mes premiers pas de chrétien, de pasteur en formation. Bénis, je t'en supplie, chacun de nous en cette matinée, au nom de Jésus. Amen.